Bonjour, je m'appelle Emma Van Durm et je vais présenter la SBL Mentor Jeune.
Bonjour, je m'appelle Basile Joris.
Bonjour à tous les deux. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ce que c'est Mentor Jeune en quelques mots?
Mentor Jeune, c'est une SBL qui travaille avec des mineurs étrangers non accompagnés. Donc, c'est des migrants qui ont moins de 18 ans et qui arrivent sans parents, sans responsables légaux en Belgique. Et donc, c'est une SBL qui travaille à trouver des familles d'accueil et trouver des familles de parrainage pour ces jeunes. Et en parallèle, on développe un projet de soutien scolaire pour ces jeunes-là.
Quand tu dis parrainage, c'est quoi exactement?
Le projet de parrainage, en fait, c'est un projet qui est à destination donc des MENA, mais aussi des anciens MENA, donc qui ne sont plus mineurs, mais qui étaient avant des mineurs étrangers non accompagnés, et qui vivent en autonomie actuellement. Et donc, c'est des jeunes qui sont parfois isolés ou qui parfois ont eu seulement des contacts avec des adultes belges, mais dans un cadre professionnel. Et donc, pour ces jeunes-là, on trouve et on accompagne des familles qui sont volontaires pour faire des activités avec eux entre une fois et deux, trois fois par mois, parfois plus, quand la relation se construit. Et donc, c'est vraiment offrir un accompagnement moral, un soutien affectif, parfois une aide par rapport au réseau qui pourrait se construire sur Bruxelles. Donc voilà, c'est ça le projet de parrainage.
Donc ce sont des jeunes qui ont été accueillis en famille d'accueil quand ils étaient mineurs et puis qui ensuite sont parrainés, ou
C'est
bien...
pas forcément à destination des jeunes qui ont été en famille
Ok.
d'accueil, c'est vraiment à destination des MENA ou ex-MENA qui ont reçu un statut leur permettant de rester en Belgique. Et donc, à partir du moment où ils reçoivent leur statut, très vite, parfois, on leur demande d'aller vivre en autonomie ou en semi-autonomie. Et donc, enfin, ce projet-là, c'est aussi un projet qui est vraiment en étroite collaboration avec Mentor Escale, qui fait de l'accompagnement individuel sur Bruxelles, avec des jeunes donc qui ont été en centre et puis qui doivent faire le grand saut et vivre seuls. Et donc ils ont une assistante sociale à Mentor Escale qui les aide d'un point de vue administratif et social. Et puis nous, on leur quand c'est leur demande, quand ils sont volontaires pour ce projet-là, on leur trouve une famille de parrainage en complémentarité avec l'aide sociale qui est proposée par Mentor Escale.
Comment est-ce qu'elle est née, cette association? À l'initiative de qui? De quoi?
L'association, elle est née. Bon, l'association mère, donc Mentor Escale, c'est la première qui est née. Elle est née en 1995, suite au constat du président de la SBL, François Cazier. Il avait rencontré un jeune qui l'avait particulièrement touché. Et il s'est rendu compte qu'il y avait quasi rien qui était mis en place pour ces mineurs étrangers non accompagnés. Et donc, il avait créé un partenariat avec un centre de santé mentale qui s'appelle Exil pour essayer de soutenir et d'encadrer un peu plus ces jeunes. Et donc, à partir de là, il y a eu Mentor Escale qui est né, donc un projet de soutien à l'autonomie, soutien social et un accompagnement dans toutes sortes de démarches pour ces jeunes. Et le projet ici de Mentor Jeune, donc notre ASBL en particulier, de famille d'accueil et de parrainage a été repris en 2016, enfin a été lancé en 2016. Et ça, c'est parti vraiment de la crise migratoire qui a eu lieu, ouais, en 2016, où il y a eu plus en plus de mineurs non accompagnés qui sont arrivés en Belgique. Et leur profil aussi a beaucoup changé, c'était de plus en plus des jeunes vulnérables. Et quand un jeune comme
Et
ça
plus
arrive,
jeune aussi.
et de plus en plus jeune aussi, et quand ils arrivent en Belgique, ils sont placés dans des centres d'accueil le temps de leur procédure de demande d'asile. Et dans ces centres, parfois, ils sont 6 par chambre, ils ont des cours d'alphabétisation, des cours de français, mais c'est un environnement où ils sont un peu des numéros, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, ils sont avec des jeunes de la même origine qu'eux, donc c'est un peu comme s'ils mettaient leur vie en parallèle pendant le temps de leur vie en parenthèse, pendant cette procédure qui peut durer parfois des années. Et là-dessus, les premières personnes du projet ici qui ont lancé la SBL se sont dit qu'il fallait trouver une autre alternative au centre. Et c'est pour ça que le projet de placement en famille d'accueil permet aux jeunes en fait de beaucoup plus apprendre le français, d'apprendre comment on vit en Belgique, et permet aussi aux familles d'ouvrir et de se décentrer, elles, de leur point de vue et d'échanger vraiment autour de la culture.
Comment ça se passe concrètement? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas accueillir tous les mineurs non accompagnés dans des familles d'accueil, quoi.
C'est, je pense, l'une des difficultés de notre travail, c'est que bon, voilà, on est subsidié par l'administration générale de l'aide à la jeunesse dans le cadre du plan MENA. Je sais pas, on pourrait expliquer un peu après ce que c'est que le plan MENA si vous voulez, mais donc on a un nombre de places limité, pour le moment 40. Ça a été parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et dans notre projet, évidemment, d'agrandir cette capacité dans les années à venir. Malheureusement, ça ne répond pas à la demande des mineurs étrangers qui. Bon, voilà, pour vous donner un chiffre, on a pour le moment en général 10 demandes de jeunes, 10 signalements de jeunes pour une place disponible. Donc après, c'est notre travail, c'est peut-être la partie difficile de notre travail d'investiguer un peu les demandes et puis de voir quelle demande peut le mieux correspondre à quelle famille. On a tout un travail de préparation avec les familles où on peut vraiment mieux les connaître, mieux comprendre leurs attentes, ce qu'ils ont à offrir, le cadre de l'accueil, etc. Et donc, en fonction de ces éléments-là, mais aussi en fonction des attentes du jeune, de son profil, et puis de sa vulnérabilité, de voilà, on a toute une série de critères dans notre méthodologie qui nous permettent de prioriser quand même certains jeunes et voilà de maximiser le nombre de enfin les chances de réussite du matching entre la famille et le jeune. C'est comme ça qu'on décide. En fait, le but, c'est pas ni de mettre les familles dans des difficultés qu'elles ne pourraient pas surmonter, et donc de pas mettre non plus le jeune dans une situation d'échec où au bout de quelques mois il doit retourner en centre ou ce genre de choses. Donc on essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas. Ça arrive très peu, mais effectivement c'est quelque chose de difficile parce qu'on a 9 jeunes sur 10 du coup qui ne profitent pas du projet.
En fait, le travail avec les familles en amont, avant de présenter un jeune, il est super important. Donc, on va rencontrer les familles entre 5 et 6 fois avant de présenter un jeune pour vraiment apprendre à les connaître et savoir quelles sont les valeurs, quelles sont leurs motivations et connaître un peu les difficultés par lesquelles ils sont vécus, ils sont passés et quelles ressources ils ont pu mobiliser pour les surmonter. Comme ça, dans le futur, une fois que le jeune ira vivre avec eux, on pourra vraiment les soutenir dans leurs ressources. Et l'idée, c'est de, comme Basile disait, de ne pas mettre les familles en difficulté, ni les jeunes. Et donc, finalement, je dirais pas que c'est tellement objectif. On essaye de vraiment connaître les familles, de vraiment sentir aussi les besoins des jeunes pour que ça se passe au mieux. Mais on fait avec l'humain et donc on est tout le temps dans essayer de sentir les choses et les attentes.
Quand vous dites famille, c'est obligatoirement des familles avec des enfants, ou ça peut être des gens seuls, ou ça peut être juste un couple, ou
Oui, tout à fait, on dit famille pour que ce soit plus facile, mais il y a des femmes seules, des hommes seuls, des couples où les enfants ont 30 ans, sont déjà partis, ils ont de la place, des couples avec enfants en bas âge, des femmes avec enfants, enfin, il y a vraiment de tout.
Ben, je voudrais quand même rajouter quelque chose parce que, en fait, quand on parle de famille d'accueil, il faudrait pas non plus réduire le projet aux familles qui sont volontaires, qui nous envoient une demande et qui font tout le processus avec nous. Il y a aussi d'autres, on va dire, types de familles qui sont ce qu'on appelle nous les reprises de guidance, mais qui sont donc des familles, des membres de la famille élargie du jeune. Donc par exemple un oncle, une tante, un frère qui aurait immigré plus tôt. Qui serait maintenant majeur et qui accueillerait un frère, un cousin mineur. Et donc on offre aussi, enfin on soutient également ces familles et ces jeunes qui sont dans ces familles-là. Et puis il y a d'autres familles qui connaissent déjà un jeune, qui héberge déjà parfois un jeune via Ça peut être la plateforme citoyenne, ou bien ça peut être un jeune qu'ils ont connu à l'école, au boulot, ou peu importe. Et donc, pour ces familles-là, parfois aussi, il y a une demande d'accompagnement parce que la situation est difficile, ou on mérite une vigilance, peut-être un soutien particulier de la part de notre équipe. Et donc, voilà, ça, le terme famille d'accueil, ça regroupe non seulement tout type de famille par rapport à la composition de la famille, mais aussi plusieurs types de familles par rapport à la manière dont les familles rencontrent le jeune.
Et donc, une fois que ce jeune devient majeur à 18 ans, est-ce qu'il peut rester dans cette famille, ou est-ce qu'il devient indépendant matériellement et autres?
Le jeune peut rester dans la famille, ça arrive même très régulièrement. La seule chose, c'est que malheureusement, nous, le subside qu'on perçoit, c'est pour accompagner des MENA. Donc jusqu'à présent, notre accompagnement se clôture. Bon, il y a toujours une transition, c'est pas non plus... voilà. Mais officiellement, normalement, notre accompagnement s'arrête quand le jeune n'est plus mineur. En tout cas, les familles ne reçoivent plus de... Parce que les familles reçoivent une compensation financière pour prendre en charge les frais qui sont liés à l'accueil du jeune, même si ça ne prend pas vraiment tous les frais en charge. Mais voilà, cette subvention-là s'arrête à la majorité du jeune. Maintenant, récemment, on a reçu aussi l'accord pour pouvoir suivre quelques jeunes après la majorité. Mais c'est simplement notre accompagnement, ce n'est pas la subvention pour les familles. Okay.
Il y a un périmètre géographique aux actions, ou bien c'est...
Ouais, c'est donc toute la région francophone, okay. Donc la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et ça, il y a une assoce parallèle en Flandre ou quoi, ou...
Ouais.
Il y a notamment Minor Endaco et le Plexor. Je ne sais pas s'ils fonctionnent exactement de la même manière que nous. Ouais. Voilà, on a déjà eu quelques échanges, mais...
Non, eux, par exemple, ils sont subsidiés jusqu'au 21 ans du jeune.
Ah oui, ok.
Donc, il y a des différences quand même.
C'est quoi les valeurs de mentor jeune?
Bah, nos valeurs, c'est une ouverture, une solidarité, un partage. Nous, on essaye vraiment de tisser des liens, en fait, avec les familles, de soutenir les jeunes à tisser des liens avec un réseau tout autour d'eux. Nos valeurs, c'est...
La mixité aussi.
Ouais, la mixité, l'inclusion.
Est-ce que vous avez des retours, j'imagine que oui, mais des retours des familles, ils vous disent que ça leur apporte quoi d'accueillir un jeune?
C'est une question qui est un peu compliquée pour nous, étant donné que on n'est pas non plus les travailleurs qui ont le plus d'expérience dans la SBL. Maintenant, les retours qu'on a, c'est souvent des retours positifs. De quelle manière ça leur apporte quelque chose? Déjà, il y a une certaine forme de valorisation. Les familles qui s'engagent dans ce projet, souvent, ça correspond aussi à leur valeur, à ce qu'elles trouvent juste. Et donc, il y a, d'une certaine manière, ça répond aussi à leur besoin de s'engager dans une cause qui a du sens pour eux. Et puis au niveau du partage, c'est clair que il y a cette ouverture vers une autre culture, vers d'autres perspectives, vers d'autres réalités. Parfois, c'est aussi ça la demande des familles, c'est de surtout les familles qui ont des enfants, c'est de montrer à leurs enfants que d'autres réalités, d'autres cultures existent. Donc moi personnellement, j'ai eu ces retours là de ma courte expérience, entre guillemets, de 2 ans. Je ne sais pas si Emma a eu des retours différents, et sans doute que nos collègues ont eu encore des retours différents. Ça peut être diversifié, les familles s'engagent dans ce projet-là vraiment pour des raisons assez diversifiées. Donc les attentes qu'elles ont et le retour est différent pour chaque situation. Voilà.
Et est-ce que vous disiez qu'en 2016, donc il y a eu une vague de migration, il y a eu plus de gens qui sont arrivés ici? Est-ce qu'il y a eu aussi une vague de parents d'accueil, de familles d'accueil, ou est-ce que c'est resté stable ce...
Mais c'est vrai que les candidatures des familles d'accueil varient fortement avec les actualités. Et souvent, en réaction avec des gros événements fort médiatisés, il y a des familles qui nous contactent. Quand il y a des incendies en Grèce, dans des camps de réfugiés, ou quand il y a eu les talibans qui ont pris le pouvoir en Afghanistan cet été... Enfin, souvent, en fait, ça mobilise des personnes et ça touche plus de familles. Donc on peut dire que moi je dirais que c'est lié en tout cas à l'actualité.
Je sais pas si c'est vrai pour 2016 parce que comme le projet se créait seulement, il fallait aussi le temps que les tuteurs des jeunes nous connaissent, que le bouche à oreille fasse un peu son effet aussi, qu'on puisse être visible. Effectivement, l'actualité a un impact sur l'intérêt des familles.
Est-ce que vous avez justement une anecdote ou un fait marquant de l'association?
Bah, il y a quand même une famille qui a adopté un jeune
Ah
après l'avoir accueilli.
ouais.
Puis on a aussi des situations où il y a eu une situation où un jeune a eu ses papiers et donc il a pu faire venir sa famille du pays, donc le faire venir en Belgique. Et il y a des situations comme ça où la famille d'accueil se mobilise et s'implique super fort et retourne un peu toute la commune pour trouver un logement pour la famille qui arrive et tout ça. Et donc ça, c'est des situations qui sont belles à voir, de voir l'implication des familles au-delà de l'accueil, de vraiment soutenir le jeune dans son épanouissement et son chemin futur.
Et vous, personnellement, dans votre travail, c'est quoi les petites joies quotidiennes ou les petites victoires
Les plaisirs au quotidien, c'est clairement de voir les jeunes rayonner quand ils s'installent petit à petit dans une famille et ils se sentent beaucoup plus reconnus que dans les centres. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis, d'avoir des retours des familles aussi qui nous envoient des nouvelles et qui nous disent, ben, on est parti visiter ou en Bretagne et ils nous envoient des photos du jeune avec la famille et on voit que ça se passe très bien. Ou quand on a un récit d'une famille qui nous explique qu'un ami du jeune est venu pour cuisiner tout un repas et célébrer une grande fête qu'ils célèbrent dans leur pays mais qu'on ne célèbre pas ici. Et, ben, ça, c'est génial évidemment d'avoir des retours comme ça.
Ouais, et puis moi personnellement, de voir ces jeunes qui ont traversé des choses tellement dures et qui, avec une force incroyable, arrivent à se reconstruire ici dans la famille, dans leur scolarité, dans leur projet futur. Ouais, ça, à chaque fois, c'est encourageant, c'est inspirant et c'est un bonheur de voir ces jeunes qui arrivent à être aussi résilients, quoi.
Il y a, j'imagine, des difficultés aussi. Vous en parliez tantôt de une, c'est le nombre de familles que vous pouvez subsidier. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés au quotidien ou peu importe?
D'un point de vue structurel, pour le moment, nous, on n'a pas d'agrément, par exemple. Donc, année après année, bon, on a des subsides qui sont un peu plus stabilisés, mais sinon, année après année, on doit faire de la recherche de subsides, du rapportage, énormément. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui, évidemment, alourdit notre charge de travail et qui, du coup, aussi est parfois un peu difficile. Par exemple, moi j'ai été engagé au début sur base d'un mi-temps de quelques mois et puis d'un temps plein d'un an. Mais, je veux dire, l'emploi au départ n'était pas forcément stable, mais c'est pareil pour le nombre de places, c'est pareil pour les projets. Est-ce qu'on pourra continuer tel ou tel projet l'année prochaine? En fait, on ne sait pas toujours exactement. Donc ça, c'est une difficulté, au-delà du fait que ça alourdit la charge de travail.
Il y a aussi une difficulté, c'est de travailler, enfin que notre projet, notre méthodologie qui est quand même assez poussée, et comme on est le seul service qui fait ça dans toute la région Wallonie-Bruxelles, on est fort sollicité par les tuteurs, donc les responsables légaux de ces jeunes, par les centres. Et une des difficultés, c'est d'arriver à collaborer et à faire une équipe. Et qu'ils comprennent aussi comment on travaille, nous, pour que tout se fasse dans l'intérêt du jeune. Et donc, ça, c'est un travail qu'on doit refaire parce que les intervenants dans les centres et les tuteurs, ils changent. Et donc, même si on va présenter notre manière de travailler dans les centres et auprès des tuteurs, il y a un turnover aussi chez eux. Et donc, il faut aller réexpliquer comment on fonctionne pour être sûr de prévenir des biais qu'il pourrait y avoir dans la collaboration.
Ouais, c'est ça. Comment est-ce que vous faites connaître l'association au grand public, enfin à ceux qui ne vous connaissent pas?
On fait connaître en rencontrant d'autres associations qui touchent les jeunes, via le bouche à oreille, en faisant un peu de communication sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, comme on a 40 places, si on a trop de familles qui nous sollicitent, on va les faire attendre trop longtemps. Et en même temps, on a envie d'avoir plus de familles pour pouvoir justifier qu'on demande plus de place à nos subsides. Et donc on est toujours un peu entre les deux comme ça, mais au niveau de la communication pour
Bah, disons
étudier, quoi.
que ouais, au niveau de la communication, ça se limite un peu à ça aussi parce que pour le moment, on n'a personne dans l'équipe qui est chargée de la communication. Ça fait partie des difficultés aussi, c'est que pour demander quelqu'un qui est en charge de tout ce qui est administratif, donc des tableaux Excel, etc., par exemple, ou quelqu'un qui est en charge de la communication, il faut à chaque fois essayer de trouver le moyen de subventionner. Ces travailleurs-là. Et ça c'est pas forcément évident. Donc, au niveau de la communication, on participe, on est dans des, comme disait Emma, on est dans des groupes de travail avec la plateforme Mineurs en exil, avec l'EIM parfois.
C'est quoi ça?
L'EIM, c'est
Organisation internationale de la migration.
pour la migration, ouais. Donc, à travers certains projets, parfois, on se fait connaître au niveau national et puis au niveau européen aussi. Et donc, parfois, les gens prennent connaissance de ce projet via ces interventions-là. Parfois, c'est du bouche à oreille. Parfois, c'est grâce à notre site internet. Voilà. Mais on ne peut pas se permettre, nous, de faire beaucoup plus de publicité pour les raisons que Emma a évoquées.
Et alors, est-ce qu'il y a des projets dans le futur que vous devez lancer, que vous aimeriez lancer?
Bah, notre projet, c'est d'augmenter le nombre de familles d'accueil et de placements. C'est aussi du coup d'engager quelqu'un pour faire notre administratif et alléger un peu les travailleurs de terrain. Et puis c'est stabiliser le projet. Et là, on est en train de faire une demande de subside pour pouvoir faire du soutien scolaire et des cours de français, langue étrangère pour les jeunes. Ça pourrait vraiment super fort les aider. Donc ça, c'est un peu nos projets.
C'est ce qu'on est en train
Développer.
de développer, de mettre en place. On a engagé très récemment, mais bon, on faisait déjà du soutien scolaire, mais là, on a engagé récemment une enseignante qui est vraiment spécialisée dans l'alphabétisation, le français langue étrangère, et donc elle aura pour mission de faire des ateliers individuels avec les jeunes qui ont besoin vraiment d'un apprentissage intensif au niveau de la langue. Et puis des activités collectives pour faire découvrir un métier, par exemple, ou bien pour faire des activités avec des jeunes belges aussi, enfin pour faire un peu de lien, de mixité avec ces jeunes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer, qu'il faudrait stabiliser aussi. Ouais, voilà, c'est ça.
Et comment est-ce que nous, personnes lambda, on peut vous soutenir?
Il y a plein de manières de nous soutenir. Par exemple, vous pouvez faire un don qui est parce qu'on bénéficie de l'exonération fiscale, donc un don financier, ça peut toujours servir. Mais sinon, plus facile, si vous avez un téléphone ou un ordinateur dont vous ne vous servez plus, pour nous les jeunes, c'est vraiment le Graal, enfin, parce qu'ils peuvent du coup beaucoup plus apprendre et c'est quelque chose qui est difficile à obtenir pour eux. En parler autour de vous de ce projet, si vous connaissez des gens qui sont un peu dans une crise existentielle, qui se demandent ce qu'ils veulent faire de leur vie et qu'ils ont de la place chez eux, n'hésitez pas à faire tourner qu'en fait c'est possible de trouver du sens en accueillant un jeune, soit à temps plein, comme les familles d'accueil, soit plus sporadiquement, comme les familles de parrainage. Et puis aussi, si vous avez des compétences un peu en maths ou en français, vous pouvez toujours nous contacter. On cherche souvent des bénévoles pour faire du soutien scolaire auprès des jeunes. Puis voilà, si vous connaissez une radio ou un journaliste qui peut nous faire un petit coup de pub, n'hésitez pas.
Ouais, ou bien des entreprises qui seraient aussi ouvertes à prendre en stage les jeunes
Ah
en
oui.
CFA par exemple, ou en job étudiant, parce que ça c'est souvent aussi une difficulté
Ouais.
de trouver des stages et des jobs étudiants pour ces jeunes-là.
Ok.
Ouais, donc là, c'est si vous connaissez quelqu'un qui a une boucherie ou
Ou qui loue un appartement par
qui
exemple
loue un
aussi.
appartement ou qui est garagiste. Enfin, c'est tous des métiers que souvent les jeunes qui sont concernés par le projet. Ils sont en train de se former là-dedans. Mmh. Et donc, souvent, ils cherchent des patrons. Et c'est souvent un peu galère. Pareil pour le logement. Donc, si vous connaissez des contacts, n'hésitez pas.
Parfait. Est-ce que vous avez un message spécifique à faire passer ?
Bah, le message spécifique, je pense que Emma en a parlé un petit peu juste avant, c'est de ne pas hésiter à nous solliciter, à demander de l'information. Ça ne coûte rien. Et puis vous seriez peut-être surpris, ça pourrait vous intéresser. Et voilà. Et puis si jamais ça c'est pas possible pour vous pour x ou y raison, c'est pas grave, on aura pu échanger ensemble et c'est déjà quelque chose.
Moi, j'aurais envie de dire que dans notre point de vue, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise famille pour accueillir un mineur étranger non accompagné. C'est juste une question de timing, de bon moment. Et nous, on est là pour soutenir dans le projet, pour amener vraiment la réflexion. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour voir où ça mène. Si vous voulez un peu des chiffres clés, depuis le début du projet, il y a eu 108 jeunes dans les familles d'accueil. Et la plupart ont gardé contact. C'est assez parlant. Mm-hmm.
La plupart, presque 100% des jeunes, en fait.
Ouais.
Et puis dire aussi que dans le réseau d'accueil, donc les centres, 100% des places sont prises pour l'instant. Donc, en fait, on ne le sait pas trop, mais il y a une crise un peu du réseau d'accueil dans la migration actuellement.
Et quoi, donc il y a des mineurs non accompagnés qui sont pas en centre ?
Pour eux, il y a encore des solutions qui sont trouvées. Okay. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous, c'était très chouette. À bientôt.